Merci Mathieu. Bonjour à tous. Ce que j'ai vu, rebonjour, et ce que je n'ai pas encore vu ce matin. Alors, j'ai intitulé mon message Pâques, hier et aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que vous, vous faites à Pâques, mais pour ma part, chaque année à Pâques, j'ai l'habitude, comme pour fêter Noël, de déposer quelques décorations à la maison. Alors cette année, je n'ai pas dérogé à cette habitude, donc bienvenue chez moi. Je décore mon grand bouquet de Pâques avec des papillons, des oiseaux, des œufs, qui rappellent que le printemps est là. Si, si, je vous l'assure, on est bien au printemps. Hein. Ce n'est pas parce qu'il fait froid que nous n'y sommes pas. Ce printemps, symbole de la vie qui reprend ses droits, symbole de la vie qui renaît, symbole, s'il en est besoin, de la résurrection. La nature sort de la mort de l'hiver et la vie renaît. Et c'est ainsi que, pour ma part, j'aime me souvenir que mon Sauveur, mon Seigneur, a quitté le tombeau et la mort pour revenir à la vie. Alors Mathieu vient d'en parler, et bien des traditions sont liées aux fêtes chrétiennes qui rythment notre vie, comme pour moi, décorer cet arbre de Pâques. Et la fête de Pâques possède cette particularité de n'être pas seulement fêtée par les chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes, elle est également une fête juive, comme nous venons de l'expliquer, contrairement à celle de Noël. Jésus lui-même est allé fêter la Pâque à Jérusalem. Parfois, dans nos mémoires, se confondent alors les éléments de l'une, la Pâque juive, et de l'autre, notre Pâque chrétienne. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours doctrinal sur la différence entre l'une et l'autre. Mais j'ai plutôt été encline pour notre réflexion de ce matin à rechercher ce qui, dans cette Pâque instituée par Moïse, nous montre, nous annonce déjà le sacrifice du Christ pour nous racheter. Comment cette première Pâque éclaire pour nous certains éléments de ce sacrifice. Comment la mort à la croix et la résurrection de notre Seigneur l'accomplissent à la perfection. Et c'est le livre de l'Exode qui nous raconte comment la première Pâque a été célébrée par le peuple de Dieu selon les instructions reçues par Moïse. Alors regardons quelques-unes des consignes qu'il a reçues. Nous lisons dans Exode chapitre 11, les versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et même, il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple. Que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. » L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. » Alors, lorsque nous lisons le récit de l'institution de la Pâque dans ce livre d'Exode, c'est quand même étonnant de noter que la première chose que les Israélites ont dû faire, c'était que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. Vous avez vu, je l'avais mis, je ne sais pas si ça sort bien, mais je l'avais surligné. Donc, lorsque les Israélites s'échappèrent d'Égypte, ils emportèrent avec eux des bijoux en or et en argent. On se demande bien à quoi ça pouvait leur servir. Il n'y a pas de supermarché dans le désert, pas d'endroit pour faire ses courses. À quoi cet or et cet argent peut servir ? Et ils ne pouvaient tellement pas acheter de choses qu'ils ont fini par se plaindre et qu'ils ne trouvaient rien à manger. Dieu leur a donné la manne jour après jour pour qu'ils puissent se nourrir, l'écaille et la manne. Alors par la suite, la célèbre histoire du veau d'or nous apprend qu'ils fondirent d'abord leurs boucles d'oreilles et d'autres bijoux pour créer une idole. Est-ce que c'est pour ça que Dieu leur a demandé de partir avec des bijoux en or et en argent ? Finalement, en lisant la suite de l'histoire, en Exode 35, le verset 22, nous trouvons une explication bien plus édifiante concernant ces bijoux. Ces objets d'or et d'argent ont pu être remis aux artisans qui ont construit le tabernacle dans le désert. Et si vous avez la curiosité d'étudier un jour toutes les composantes de ce tabernacle, vous constaterez que le but premier de cette tente très particulière était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple, de procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constante avec le Dieu saint. L'Épître aux Hébreux elle-même confirme que le sanctuaire fait de main d'homme l'a été en imitation du véritable établi par le Seigneur dans le ciel. Dans le nouveau dictionnaire biblique, nous pouvons lire « Le rituel, le culte, les sacrifices, le sacerdoce d'Aaron sont des types et des prophéties de la personne du sacrifice et du sacerdoce de Christ, notre souverain sacrificateur. » Alors, sans aller plus loin sur des détails, nous constatons que ce que Dieu nous demande, ça a toujours un sens, un but à côté duquel il ne faut pas passer. Cette demande d'or et d'argent qui serviront pour rendre un culte à Dieu dans le désert fait écho en moi à la naissance du Sauveur. Les rois mages, ils ont apporté pour Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà encore l'or qui est présent. Si l'argent représente le rachat de chaque Israélite, on peut retrouver ça dans Exode, chapitre 38, les versets 25 à 28, l'or symbolise en général ce qui est divin et inaltérable. Il est le signe de la royauté de Jésus. Alors que les Israélites vont s'enfuir, Dieu ne manque pas de les interpeller en leur demandant de se procurer ce métal divin. Voilà déjà les prémices d'une royauté, celle du Sauveur, le divin roi. Et cet or nous parle aussi déjà de la victoire. Au fil des âges, n'est-il pas vrai que l'or va signifier la victoire ? Pour s'en convaincre, il suffit de penser à notre temps moderne et à la médaille d'or, même au temps ancien, à la médaille d'or des Jeux Olympiques. Je poursuis ma lecture dans Exode, au chapitre 12, les versets 5 à 8. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, dans la préparation de la Pâque, Moïse indique au peuple de se préparer matériellement, nous venons de le voir avec l'or et l'argent, mais aussi spirituellement. Préparer un agneau sans tache afin de le sacrifier. Son sang va servir de protection face à l'ange exterminateur. Le sacrifice d'animaux est un thème important dans les Écritures. Car s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué des animaux pour les vêtir, en Genèse 3, 21. C'est la première fois qu'il est mentionné dans la Bible que du sang est versé. Et ce sang est versé pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, surtout leur faute, puisqu'en désobéissant à Dieu, ils ont eu connaissance du bien et du mal. Dans le cas de la Pâque, il y a des précisions importantes. Un agneau ou un chevreau mâle sans défaut. Et c'est bien ce que sera Jésus, le Christ crucifié à notre place le soir de la Pâque. Vendredi soir, nous étions réunis et nous avons relu ou écouté la lecture de l'évangile de Jean pour ceux qui pouvaient venir. Et à la lecture de cet évangile, quelque chose m'a tout à coup et tout à nouveau frappé. On remarque que par trois fois, Pilate déclare « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner ». Nous le trouvons en Jean 18, 38, en Jean 19, 4 et en Jean 19, 6. Oui, Jésus, c'est notre agneau immolé qui était pur et sans tache. Et ce même Pilate a été obligé de le reconnaître publiquement. Tout comme au temps de Moïse, on a sacrifié des agneaux purs et sans tache. De même, Jésus a subi le sacrifice alors qu'il n'était coupable de rien. Lorsque les Israélites ont fui l'Égypte, ils ont consommé l'agneau accompagné de pain sans levain. Alors, on peut bien comprendre qu'avec l'urgence, il n'y était pas question de faire lever le pain. Mais cette demande de ne pas mettre de levain a également une visée prophétique. Le levain sera considéré, dans la suite de l'histoire du peuple hébreu, comme un agent de corruption. Le levain devient synonyme de la malice, la méchanceté, dont nous devons nous garder. Rappelez-vous de Jésus qui parle du levain des pharisiens en Matthieu 16, les versets 6 à 12. Et Matthieu conclut en écrivant à la fin de cette histoire « Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain qu'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » C'est ce levain-là dont il faut se méfier. Lorsqu'il partage la scène avec ses disciples, cette scène que nous venons de commémorer, Jésus explique clairement l'analogie entre le pain qu'il consomme et son corps. Et puisque c'était le repas de la Pâque, ce soir de la scène, c'est du pain sans levain qui a été consommé. Ce pain sans levain, donc, pur, non corrompu, est bien le symbole pur du corps de Jésus qui n'avait ni défaut ni tache. Et enfin, l'agneau de la Pâque juive doit être accompagné d'herbes amères. Elles symbolisent l'amertume et la dureté de l'esclavage que les Hébreux ont enduré en Égypte. Oui, il fallait se rappeler cette libération à travers les âges avec ces herbes amères. N'en est-il pas de même pour nous aujourd'hui ? Par la mort de Jésus, nous avons été libérés de l'esclavage et du péché. Quelle est la place de ces herbes amères dans un sens spirituel, dans le souvenir de la mort du Seigneur ? Cette évocation nous rappelle les souffrances du Christ. Avant d'être arrêté, Jésus va se rendre à Gethsémané pour prier. Dans ce jardin, il a prié que cette coupe s'éloigne de lui. Mais de quelle coupe s'agissait-il ? Celle du péché. Lui, parfait, devait prendre notre place et porter nos péchés. Lui, saint, devait se faire pécheur pour nous. Alors que les Hébreux, après avoir eu la vie amère pleine de souffrances en Égypte, en tant qu'esclaves, ont été rendus libres, de même Jésus pria avec douleur, car il devait porter nos péchés et il le fit pour que nous soyons libres. Il vécut ensuite à notre place un terrible sacrifice empreint de douleur et d'amertume, celle de la séparation d'avec son Père, bien plus douloureuse que la souffrance physique qu'il a endurée. Alors, nous venons de voir divers éléments de la Pâque juive qui sont prophétiques par rapport à la mort de Jésus sur la croix. Et j'aimerais encore partager avec vous deux points que nous n'avons pas abordés dans les deux récits de l'Exode que nous avons lus. Peut-être l'avez-vous remarqué, il y a quatre membres de phrases qui sont en gras, je n'en ai parlé que de deux. Souvenez-vous, en Exode 11.5, j'avais mis en gras, « Tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône. » Une lecture rapide de ce passage ne nous permet pas d'en comprendre toute la portée, parce que nous ne vivons plus au temps des Égyptiens et des Pharaons, avec tout le culte des dieux égyptiens qui en découle. John Romer, dans son livre « La Bible et l'histoire » nous rappelle « Avec le dixième et dernier fléau, Yahvé frappe l'Égypte en plein cœur. En effet, la mort des premiers-nés est une malédiction toute particulière dans la tradition égyptienne et sa portée dépasse de très loin le domaine du deuil personnel. Dans la société traditionnelle de l'Égypte, le fils aîné héritait, bien sûr, du rang paternel, mais en outre, par la pratique minutieuse du culte rendu aux morts, il lui incombait d'assurer la continuité entre ce monde et l'au-delà. Car une fois ce lien rompu, les Égyptiens de l'Antiquité se retrouvaient sans racines, retombaient dans les ténèbres du néant, dans un cosmos à jamais déréglé. En effet, c'était les premiers-nés qui exerçaient la fonction de prêtre. Cela signifie en clair que l'inflexibilité de Pharaon ne relevait pas tellement d'un endurcissement politique, mais que le véritable lieu de résistance de l'Égypte face à l'appel de Moïse et donc à la demande de Dieu, là où tout bloquait, c'était le religieux dont les premiers-nés constituaient les représentants par excellence, les prêtres, les représentants du divin sur terre pour les Égyptiens. La sortie d'Égypte, c'est donc vraiment une révolution religieuse. La croyance égyptienne de l'époque est une religion qui se croit investie d'un pouvoir politique immédiat. Le prêtre qui voudrait se faire roi, une théocratie. Et qu'est Pharaon, sinon un dieu prêtre qui est aussi roi? Finalement, Dieu, en faisant agir l'ange exterminateur sur les premiers-nés d'Égypte, et en particulier sur le premier-né du Pharaon, démontre sa toute-puissance sur tout ce que l'Égypte peut compter de Dieu et de croyance. Il est le seul, il est l'unique qui domine toute la création. C'est une démonstration éclatante pour le peuple qu'il s'est choisi. C'est l'annonce de sa victoire contre toute tentative pour asservir ce peuple et contre toute tentative pour contester l'autorité de Dieu. La deuxième phrase que j'ai surlignée, c'est « Tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux. » C'est Exode 12.6. Est-ce que vous avez noté la nouveauté qui se présente dans cet événement? Je vous laisse réfléchir un peu. Qu'est-ce qui peut être nouveau? Les Israélites inaugurent une nouvelle histoire et marquent un nouveau départ. Pour la première fois, un sacrifice est offert par famille, dans la famille. C'est la participation de toute l'assemblée qui est sollicitée. Et c'est une nouveauté par rapport au temps des patriarches, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un sacrificateur. Si nous ne prêtons pas attention à ce fait, nous gardons seulement en mémoire que dans l'Ancien Testament, il n'y a que quelques personnes qui sont habilitées à accomplir les sacrifices. Mais grâce à cette institution de la Pâque au temps de Moïse, nous comprenons que pour chaque famille, il était possible d'accomplir soi-même le sacrifice, mais aussi qu'un seul sacrifice pour la famille était nécessaire. En effet, dans Exode 12, le verset 3, il est demandé que chaque famille prépare un agneau pur et sans défaut. Nous pouvons y voir une annonce prophétique du sacrifice unique de Jésus, une fois pour toutes, pour nous racheter de nos péchés. Tout l'ensemble de la communauté qui procède au sacrifice en même temps donne aussi une première idée de la communion fraternelle qui existera entre les rachetés. Tous reçoivent le même pardon dans la même nuit, protégés par le sang de l'agneau. Et en même temps, nous y décelons la responsabilité personnelle dans l'acceptation de ce sacrifice. La famille qui n'accomplit pas le sacrifice n'est pas protégée, n'est pas pardonnée. Et comme ce n'est pas dû à l'intervention d'un personnage qui a une autorité particulière, il n'y a pas d'excuse. Si on n'accepte pas d'obéir à l'exhortation de Dieu, on n'a pas de moyen d'échapper au jugement. Dieu est l'auteur du salut et chacun doit prendre la décision de l'accepter ou non. Finalement, aujourd'hui nous nous réjouissons et nous célébrons Pâques. Nous souvenons du cadeau incroyable que Dieu nous a fait. Il a donné son Fils pour nous et j'espère vous avoir fait comprendre qu'il l'avait prévu de toute éternité avec ce texte de la Pâque juive. Jésus, ce roi dont l'or du tabernacle nous parle déjà, or tiré des bijoux emportés par les Israélites lors de leur fuite en Égypte. Jésus, son unique, son premier-né, pur et sans tache, offert afin que chacun de nous puisse être racheté et protégé par son sang précieux. Jésus, celui qui a porté nos péchés à la croix, mourant, lui, l'innocent, à notre place dans la tragique souffrance de la séparation avec son Père. Mais le plus important, ce qui fait la différence avec la Pâque juive, l'agneau était mangé dans la nuit et nous pouvait revenir à la vie. Au contraire, Jésus, le Christ, le Messie, lui n'est pas resté dans le tombeau. Il a franchi une étape supplémentaire pour parfaire notre salut. Il est ressuscité. Lui, le roi couronné d'épines par les soldats romains, est devenu le roi glorieux revêtu de l'or de la victoire sur la mort. Il nous accorde ainsi le pardon de nos péchés et la vie éternelle si nous acceptons qu'il a donné sa vie pour nous à la croix et qu'il est ressuscité. Personne ne peut choisir à ma place, à ta place, à votre place, à notre place. Quel est alors votre choix aujourd'hui? Je vous encourage, si votre réponse ce matin est choisir de suivre Jésus, à la fin du culte, de venir voir les anciens pour en parler. Nicolas est à votre disposition, je le suis aussi. Et ainsi, nous pourrons prier ensemble. Mais dès à présent, prions maintenant.